Chapitre 3. Monsieur et Madame Marmondier. Une demi-heure s'était écoulée depuis ce bref entretien lorsqu'on procéda à la vente aux enchères des différents objets que des âmes charitables avaient remis à l'œuvre de la Croix-Rose. « Nous allons mettre en vente, dit un commissaire priseur amateur, le chef-d'œuvre du célèbre peintre Florent Mougas, le portrait de Mademoiselle I.P. L'artiste est présent. L'heureux acquéreur de cette toile de maître aura l'insigne honneur de lui être présenté. Que cette perspective soit un encouragement à tous, bien que, j'en suis convaincu, la qualité de l'œuvre soit suffisamment réelle pour que les amateurs se la disputent sans autre raison que celle de la posséder. Attention, nous commençons. » Quelques minutes plus tard, Florent était conduit auprès de la dame même qui, avant la vente, lui avait demandé de ne pas s'éloigner. « Ma fille, dit-elle. » Le peintre se retourna, rougit et pâlit tour à tour, se troubla. Mademoiselle Danielle Marmondier était en face de lui. « C'est une de vos admiratrices. » La jeune fille baissa les yeux. « Ma fille tenait tellement à posséder cette peinture qu'elle mettait des enchères sur les miennes. Mais cela n'a aucune importance. Ne s'agit-il pas d'une bonne action ?» Florent hocha la tête en guise d'acquiescement. Il ne pouvait croire à son bonheur. De temps en temps, il levait les yeux sur la jeune fille. Il rencontrait alors son regard et son trouble était si grand qu'il ne pouvait s'empêcher de détourner la tête. « La question que je vais vous poser, continua Madame Marmondier, vous paraîtra peut-être d'une profane, mais comment faites-vous pour transporter sur une simple toile, à l'aide de simples couleurs, tant de sensibilité frémissante ?»« Maman !» interrompit la jeune fille sur un ton de reproche. « J'ai l'impression qu'il vous a fallu observer pendant des mois la personne qui vous a servi de modèle, car comment, autrement, auriez-vous pu saisir sur le vif tous ces détails qui sont criants de vérité ?»« Je connaissais pourtant à peine mon modèle, » répondit Florent, gêné et sans oser regarder Danielle Marmondier. « Naturellement, fit cette dernière, je sais même qu'il existe des peintres qui travaillent sans modèle. Ne dit-on pas qu'Utrio ne fait que copier des cartes postales ?»« Enfin, peu importe la manière, le fait est que vous avez fait un chef-d'œuvre. C'est tout ce que nous vous demandons pour... C'est tout ce que nous vous demandons pour le moment. Plus tard, nous serons peut-être plus exigeants. » Florent osa enfin regarder la jeune fille. C'était une autre personne. La présence de sa mère, sans doute, faisait qu'elle avait perdu toute timidité. Alors qu'une heure auparavant, elle avait semblé prête à s'évanouir, elle était à présent tout à fait maîtresse d'elle-même. « Ne crois-tu pas, dit-elle à sa mère, que papa serait content de faire la connaissance de M. Mougas ?» Madame Marmondier jeta sur sa fille un regard sévère, puis, souriant brusquement, elle s'adressa au peintre. « Accepteriez-vous, monsieur, de nous faire le plaisir de venir déjeuner la semaine prochaine ? Mon mari sera certainement très heureux de faire votre connaissance. Dans sa jeunesse, il avait commencé, lui aussi, à faire un peu de peinture. » Diverses compétences lui avaient prédit un assez bel avenir s'il persévérait. Malheureusement, il s'est lassé bien vite. Mon mari est ainsi fait que s'il n'arrive pas tout de suite au but qu'il se propose d'atteindre, il préfère abandonner et faire autre chose. Comme cela lui a toujours réussi, on n'a même pas la ressource de le lui reprocher. Cela ne veut pas dire qu'il a oublié ce qui avait été sa marotte d'un instant. Au contraire, il y songe souvent. Il aime à en reparler. Je suis certaine que, de la conversation que vous aurez tous les deux, vous tirerez de nombreux enseignements. Est-ce que mardi est un jour qui vous convient ? Ce jour me convient parfaitement, madame. Si vous préférez mercredi, puisque vous avez dit mardi, eh bien, c'est entendu, mardi, 1 heure. Les jours qui suivirent semblèrent interminables à Florent. Jamais il ne regarda autant de montres. Cela en devenait machinal. En passant devant chaque magasin, il cherchait des yeux l'horloge, s'arrêtait pour la trouver s'il ne l'avait pas vue du premier coup. 100 mètres plus loin, le même manège recommençait. Si bien que la nuit, il rêvait d'aiguilles et de chiffres romains. Le matin, quand il se réveillait, la première chose qu'il faisait était de chercher sa montre, et si, par hasard, il était un peu plus tard que d'habitude, il en éprouvait une grande joie. Finalement, le grand jour arriva. À une heure précise, il sonnait à la porte de l'appartement des Marondiers. Un valet de chambre anamite l'introduisit dans un petit salon, presque uniquement meublé de vitrines emplies à craquer de porcelaine. M. Marondier en était collectionneur. Il y avait à peine une minute que le peintre se trouvait dans cette pièce, qu'une porte s'ouvrit, livrant passage à Daniel. « Bonjour, monsieur, ma mère va venir tout de suite. » Florent voulut parler, mais il ne put articuler un mot. Il feignit alors, par contenance, d'en avoir rien à dire et prit un air distrait. « Nous n'avons pas voulu accrocher le portrait de mademoiselle Hippé sans vous consulter. Nous avons pensé que vous sauriez mieux que nous quel est l'éclairage qui lui convient, » continua Daniel, « de manière à montrer qu'elle n'ignorait rien des soins dont on doit entourer un tableau. Il est dans ma chambre pour le moment. Dès que ma mère sera là, j'irai le chercher. » « Il faut un éclairage assez doux, » parvint à dire Florent. « C'est exactement ce que j'ai dit à ma mère. Elle voulait le mettre au salon. Le soleil l'aurait tué. Tout à l'heure, vous m'accompagnerez au bureau. Cette pièce donne sur la cour. » « C'est peut-être un peu sombre. » « Non, non, il y fait très clair, mais l'exposition est celle d'un atelier, c'est-à-dire au nord, » fit fièrement mademoiselle Marondier. « Je vois que vous faites de la peinture. » « Malheureusement, non, papa ne veut pas. » « Comme c'est méchant !» dit Florent de plus en plus intimidé. Daniel le regarda avec étonnement. Il songea alors à ce qu'il venait de dire et trouva cela un peu familier. Le sang lui monta à la tête. « Comme c'est méchant, » continua-t-il, « de quoi ? De votre part ? Pourquoi ? Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. » « Comme c'est méchant de votre part, dis-je, de vouloir faire de la peinture malgré l'interdiction de votre père. » « Je ne veux pas en faire, vous m'avez mal comprise. » « tant mieux, je craignais que... » Il s'arrêta net de parler, sa gorge s'était serrée. S'il avait continué, des sons rauques en fussent sortis. Daniel le regarda en souriant, à la fois effrayée et attirée par ce jeune homme, chez lequel elle avait deviné, dès la première fois qu'elle l'avait vu, une âme et un cœur peu communs. À ce moment, Madame Marondier, un cartable sous le bras, entra dans le petit salon et la jeune fille se retira. « Je suis contente de vous voir, monsieur. Mon mari a beaucoup admiré votre tableau. Il se réjouit de vous connaître. » Si les affaires l'ont occupé toute sa vie, il n'en a pas moins gardé une profonde tendresse pour tout ce qui touche aux arts. Lui-même, comme je vous l'ai déjà dit, je crois, a fait un peu de peinture dans sa jeunesse, et s'il n'a pas continué, c'est un peu, j'en suis convaincue, à cause de ses occupations. Tenez, justement, je vous ai apporté les premières choses que mon mari ait faites. » Madame Marondier posa le cartable sur un guéridon, l'ouvrit, en tira des sous-bois peints à l'aquarelle. « C'est plein de délicatesse, » observa Florent, sur le ton d'un professionnel indulgent aux travaux d'un amateur. « Oh, c'est sans prétention, mon mari n'a jamais beaucoup travaillé. Il a fait ses pochades par instinct, si je puis dire. » « N'empêche qu'elles sont charmantes. » « Il est très doué, n'est-ce pas ?»« Très !» Mademoiselle Marondier reparut à cet instant. « Tu montres les peintures de papa ? » demanda-t-elle à sa mère. « J'en montre quelques-unes. Mais celles qu'il a faites à Étretat, où sont-elles ? » « Je ne veux pas tout montrer, cela ennuierait peut-être notre hôte. » « Ce sont les mieux. » « Celles-ci sont pourtant très réussies, » dit Florent. « Elles sont pleines de sensibilité, d'une observation fine et personnelle qu'on rencontre rarement chez des amateurs. » Celles-ci sont pourtant très réussies, dit Florent. Elles sont pleines de sensibilité, d'une observation fine et personnelle qu'on rencontre rarement chez des amateurs. Bien qu'un domestique eût annoncé depuis longtemps que le déjeuner était servi, ils demeurèrent encore plus de 10 minutes à parler des dispositions artistiques de M. Marondier. Puis Daniel entraîna sa mère et le peintre dans le bureau pour choisir le pan de mur sur lequel on accrocherait le portrait de mademoiselle I.P. M. Marondier, assis dans un fauteuil, lisait un journal, ou plutôt feignait de le lire, impatient qu'il était de savoir ce que penserait son invité de ses aquarelles. Les présentations faites, sa femme lui apprit l'appréciation flatteuse du jeune artiste. « Tu as donc montré mes peintures ?» dit-il comme s'il l'ignorait. Tout le monde passa enfin dans la salle à manger. Au cours du repas, M. Marondier fit preuve d'une grande sympathie à l'égard de son invité. C'était un homme d'une cinquantaine d'années, grand, fort et chauve. À première vue, il ne donnait pas l'impression d'avoir pour les arts ce penchant sur lequel sa femme s'était si longuement étendue. En l'observant davantage, on ne tardait pas à s'apercevoir que sa rude enveloppe dissimulait une âme inquiète, sensible, ayant des aspirations mal définies, mais les ayant tout de même. « Je suis très content, dit-il à Florent, que les circonstances m'aient permis de faire votre connaissance. À force de vivre dans un milieu d'affaires, on finit par perdre complètement de vue tout ce qui n'est pas chiffre, intérêt. On finit par penser que l'argent seul compte en ce monde, et quand on se trouve, continua-t-il avec une charmante modestie, en présence d'un homme comme vous, pour qui, je le devine, les questions pratiques sont autant de problèmes insolubles, on se sent vaguement coupable de quelque chose. Il nous apparaît que nous devons tous disparaître. Aussi est-ce avec un certain regret que nous songeons que nous avons peut-être gâché notre vie. N'eût-il pas été plus sage de notre part, au lieu de lutter comme nous l'avons toujours fait pour acquérir des biens dont la possession, au lieu de nous satisfaire, nous en a fait désirer d'autres, de chercher à nous perfectionner moralement ? Au seuil de la vieillesse, je commence seulement à comprendre le sens d'une vie humaine. Aussi, laissez-moi vous dire combien il me surprend et me ravit à la fois qu'un jeune homme de votre âge ait découvert si rapidement la vraie voie que nous devrions tous suivre. Cependant que M. Marondier parlait, Florent, qui hochait la tête par politesse, ne songeait qu'à la jeune fille. Il n'osait la regarder trop souvent, et chaque fois qu'il levait la tête, il absorbait le plus qu'il pouvait d'elle, comme si elle n'eût été que de l'air et qu'il s'apprêtât à plonger.